tous et bienvenue dans Les Projets du Web, 9e épisode. Nous voici de retour à nouveau. Je suis Nicolas, votre hôte pour ce soir, et pour m'accompagner, encore et toujours pour la troisième fois, cette fois-ci, Mathieu. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu ?
Bonsoir. Bah écoute, ça va très bien, la santé, tout va bien. Et oui, troisième, la santé par opposition à toi, je tiens à le préciser, qui nous fait encore une fois l'honneur d'être là alors que t'es plutôt malade.
Les auditeurs vont finir par penser que j'ai une petite santé fragile, mais oui, j'ai eu du mal à me remettre et résultat, ça va mieux, mais ma voix, vous l'entendrez peut-être, a des petits ratés. Donc je m'excuse par avance si ça déraille un petit peu, je vais essayer de faire mon possible.
Bon, en tout cas, encore une fois, on te remercie. De prendre sur toi et de vaincre la maladie pour être avec nous.
Ça fait quand même un petit peu je n'ai qu'un petit à la base un petit rhume qui s'est métamorphosé.
Oui, non mais j'en fais peut-être un peu trop, mais c'est pour rendre le truc encore plus
grandiloquent,
épique, c'est ça. Wow. Exactement,
j'en ai de la chance. Bon, en plus, pour ne rien gâcher à tout ça, beaucoup de news ce soir. On a relevé pas mal de news, pas mal de petits projets. On va faire des retours sur certains, donc vraiment beaucoup de contenu.
Ça va être dense.
Ah oui, là c'est clair que ça va être dense. Et ben justement, je vais pas tergiverser, je vais pas discuter trop longtemps. On va se lancer dans le vif du sujet. On va pas traîner, on va essayer d'avaler tout ça. À moins que tu aies quelque chose à dire avant que je commence. Hein.
Absolument pas. Je te laisse partir, t'étais dans la lancée.
Ça va, alors c'est parti. Donc je commence rapidement par vous parler de deux petits courts-métrages, un court-métrage et un pilote exactement, qui ont un peu fait le tour du web du web geek ces derniers jours. Donc vous avez certainement dû tous les voir, et à mon avis, toi aussi, même peut-être les gens qui n'aiment pas spécialement ce genre de contenu ont dû le voir passer. Je veux bien sûr parler du court-métrage sur les Power Rangers, ça c'est le premier, et du pilote de la web-série sur Dragon Ball. Alors, on va commencer par les Power Rangers. Déjà, est-ce que tu aimes les Power Rangers ?
Non mais alors là, je vais vraiment être un très mauvais public sur cette news, parce que bon, ni l'un ni l'autre n'ont véritablement chez moi une espèce de... ne représente quoi que ce soit qui m'attire vraiment, donc je suis vraiment désolé, je suis pas le bon public. En plus de ça, j'ai été un piètre co-animateur parce que je n'ai même pas cherché à regarder. Donc non, là-dessus, je suis vraiment navré, mais je vais pas être le public cible. J'imagine par contre que ça fait beaucoup parler sur les réseaux. Et je pense que ça doit être quand même des choses pour les fans qui doivent être quand même assez appréciables.
Tout à fait. Ben donc, effectivement, c'est pas le genre de contenu qui peut nécessairement plaire à tout le monde, mais si, comme moi, vous êtes de cette génération, de la génération Club Dorothée, que vous avez passé une partie de votre enfance à regarder les animés qui étaient diffusés, les différentes séries, évidemment, ces deux news-là ont dû vous parler. Donc la première, c'est un petit fan-film, un petit court-métrage d'environ un quart d'heure, qui a été créé par un certain Joseph Kahn, qui a décidé donc d'adapter à une sauce un peu plus moderne et un peu plus trash les célèbres Power Rangers. Donc les Power Rangers, ce sont ces Sentai, à la base japonais, qui ont été très américanisés, où cinq héros multicolores, parfois un peu plus, combattent des grands méchants qui essaient d'envahir la Terre, dans des chorégraphies plus que douteuses et avec des jeux d'acteurs plus... un peu ridicules, on va dire. En disant gentiment quand même. Alors pour le coup, le court-métrage a été assez marquant parce qu'il en fait une adaptation totalement libre où, en gros, les fameux 5 héros sont dans un monde un peu futuriste où ils sont sous... je grossis le trait, je vais pas aller dans le détail de l'histoire, mais sous le joug d'une espèce de dictature. Et on voit comment chacun d'eux a tourné suite à ses missions de Power Rangers, et ça oscille entre violence, drogue, sexe, meurtre, ça part un petit peu dans tous les sens.
On est loin du côté enfantin auquel moi, bêtement, j'aurais pu assimiler ça à quelque chose d'assez enfantin.
Comme tout le monde, je pense.
Là, vu ce que j'entends... Que tu dis, ça a l'air d'être quand même assez éloigné de ça.
Et justement, je vais venir avant cette petite précision, juste anecdote, il y a dedans, pour ceux qui connaissent, James Van Der Beek, qui est l'acteur qui jouait Dawson, étonnamment, qui se retrouve dans ce court-métrage. Bon, ça c'est pour anecdote. Sinon, donc, justement le côté enfantin, le souci c'est que la savane à qui appartient la licence Power Rangers a trouvé un petit peu malvenue l'utilisation de sa licence sur internet dans un fan film comme ça diffusé sur Vimeo et YouTube, et surtout avec autant de violence, parce que c'est, ils préfèrent quand même garder ce petit côté pour enfants de la licence, et donc ils ont décidé purement et simplement de striker, comme on appelle ça sur YouTube, donc c'est-à-dire de demander à YouTube de retirer le contenu sous prétexte de violation de copyright. Alors évidemment, bon, la communauté s'étant déjà, des fans s'étant déjà emparés du truc, tout le monde y était de son petit commentaire assassin, tout le monde a réagi, et si bien qu'après s'être pris une volée de bois vert, ils ont bien été obligés d'accepter de remettre le film, avec simplement un petit disclaimer au départ qui expliquait que c'était la propriété de la Sabane. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Sinon, ben, je vous encourage à aller le voir, hein, pour ceux qui veulent. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'émission, et vous pouvez chercher tout simplement pour Rogers une Unauthorized. Vous devriez trouver, à mon avis, comme ça. Alors, deuxième projet du même genre. Là, pareil, je pense pas que ça te parle à ce niveau-là, c'est Dragon Ball. Je sais pas si tu regardais quand tu étais jeune.
Non plus. Mais après, je pense qu'effectivement, il y a un problème de génération. On n'est pas exactement, même si on n'est pas si éloigné que ça, de la même génération. Et du coup, c'est pas tout à fait moi ce à quoi j'ai été confronté dans mon
Dragon
enfance.
Dragon Ball, c'est universel, alors.
Non, mais c'est unique. Non, mais évidemment. Mais en plus de ça, après, peut-être que je me suis moins intéressé. J'aurais pu. Je pense que si je me souviens bien, moi, à mon époque, c'était déjà plus des versions, je sais pas comment on peut appeler ça, de Dragon Ball beaucoup plus évoluées. Je sais plus les noms, hein. Moi, n'étant pas fan, je me souviens plus. Mais ça, c'est plus les séries originelles. Et donc, moi, j'avais jamais accroché, en fait, à l'époque, effectivement, malheureusement.
D'accord. Donc, pour tous ceux qui aiment Dragon Ball, le groupe Machinima, donc, qui est un célèbre groupe, enfin, un célèbre. Comment ça s'appelle ça, pas média, un célèbre réseau, voilà, sur YouTube, donc qui permet, parraine en quelque sorte beaucoup de vidéastes, a décidé de produire sa propre web série adaptée d'un OAV de Dragon Ball Z. Donc ça ne raconte pas toute l'histoire de Dragon Ball, hein. Ça raconte uniquement l'OAV, donc le film vidéo, c'est comme ça qu'on peut décrire, de l'attaque des cyborgs. Donc pour les fans, c'est l'histoire en réalité de Trunks, où dans le futur alternatif, Son Goku est mort et Trunks et Son Gohan essayent tant bien que mal de sauver la Terre de l'invasion des cyborgs qui a eu lieu il y a je crois que c'est 13 ans si je dis pas de bêtises, et qui menace de tuer tout le monde depuis lors. Et bon, pour le coup, il faut dire que la série est quand même, je trouve, assez bien faite. Pour une web-série, franchement, elle vaut le coup d'être vue juste pour les effets spéciaux, les combats, vraiment pour l'aspect de se dire que, voilà, ça y est, on peut faire ce genre de choses avec une web-série. Bon, tout n'est pas parfait, hein. Il y a des effets parfois un peu cheap, notamment ce qui s'envole, mais c'est moi qui ai trouvé. Et surtout, ça c'est chose importante, je trouve qu'ils réussissent une adaptation assez fidèle et assez bien faite, et loin du ridicule de ce qu'on a pu voir avec la sortie cinéma de Dragon Ball il y a quelques années d'ici. Donc qui nous montre que voilà, quand la puissance des fans est là, quand l'envie est là, il y a moyen de faire de belles choses. Donc ça s'appelle Dragon Ball Z Light of Hope. C'est l'épisode pilote qui a été diffusé sur YouTube et je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Voilà, voilà.
Ben merci pour cette info. Je regarderai quand même parce que je veux pas passer pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas.
Mais tu verras,
du coup, je regarderai. Magnifique, ben, je vais aller voir de suite après l'épisode. On enchaîne du coup avec une news qui a été publiée en fait sur le site du point, lepoint.fr au travers d'une de leurs émissions qu'ils font conjointement avec France 24 qui s'appelle Tech 24. Et au début de cette émission, en fait, les deux journalistes évoquent une news magnifique qui dit « L'entreprise américaine de financement participatif Kickstarter s'apprête à débarquer en France aux alentours de un mois. » À l'époque, ils avaient prévu un mois. Et dans la foulée de cette annonce, ils vont même jusqu'à faire une interview de Justin Kazmark, qui est le porte-parole en fait de Kickstarter, interview durant laquelle ils vont pas évoquer cette news, mais du coup l'un dans l'autre avec le petit article sur le site du Point, l'information se répand, Kickstarter débarque en France très très vite pour en tout cas installer sa structure et donc avoir une structure basé en France, oui mais non, puisqu'en fait assez rapidement donc l'info a commencé à émerger un peu partout et il y a des personnes qui ont émis des doutes et notamment un journaliste de CNET qui s'appelle Jérôme Durel qui a directement interpellé en fait Justin Kazmark via Twitter pour lui dire au fait est-ce que c'est vérifié parce que t'en parles pas dans ton interview. Et cette personne a évidemment répondu non, 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 Kickstarter n'arrive, entre parenthèses, pour le moment, pas en France. Donc, la chaîne a dû corriger cette news, mais c'était assez intéressant de voir, même nous, on s'est fait prendre au piège, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais on a une plateforme sur laquelle on met les news en fait pour préparer les projets du web et je crois qu'on était tellement au taquet quand on a vu la news tomber que tous les deux ou quasiment en même temps on a voulu le publier. Et juste après quelques heures après on a aussi voulu tous les deux publier le démenti dans notre sur notre plateforme pour se rendre parce qu'on venait de se rendre compte que c'était faux. Donc dans la lignée de en ce moment des déclarations de personnes mortes alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Je ne sais pas si tu suis l'actualité française.
Martin
voilà,
Bouygues.
Bah donc exactement l'AFP qui déclare Martin Bouygues mort. Bah on a aussi des journalistes de France 24 qui déclarent que Kickstarter vient en France alors que pas du tout. Voilà pour cette news.
En même temps voilà, Kickstarter, quoi. Donc, d'office, tu dis Kickstarter vient en France, même s'il y a déjà pas mal de plateformes de financement participatif. Je trouve même beaucoup pour un pays comme la France, d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre débat. Mais Kickstarter, quoi. C'est le fondateur du concept, c'est le fer de lance, c'est le site. Donc, c'est normal que ça ait fait autant de vent. Ça, c'est logique.
C'est sûr. Après, ce qui est étonnant, c'est. En fait, ce qui m'a d'autant plus étonné, c'est qu'une news lancée sur un blog, même de qualité, non vérifiée, enfin fausse, ça arrive de temps en temps. Mais là, ce qui était étonnant, c'est que quand tu regardes la fameuse vidéo de Tech24, l'introduction de leur pseudo-émission, parce que c'est des émissions courtes sur un sujet, ils disent tous les deux en studio, face caméra, Kickstarter va venir s'installer en France. Et d'ailleurs, on a l'interview de leur porte-parole.
Qui est une magnifique barbe.
L'interview suit. Il n'en parle pas du tout. Enfin, c'était un peu étonnant comme façon de faire passer une fausse info.
Au passage, bon, en dehors de la vanne sur la barbe que j'ai essayé, mais j'aurais tenté. Dans la vidéo, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais tout le banner en dessous, justement durant l'interview, d'abord ils le présentent, ils mettent Kickstarter, mais après ils mettent crowdfunding Kickstarter bientôt dans l'Hexagone point d'interrogation. Donc même dans leur
oui, c'était pas clair,
déroulé, voilà, mais
ouais, plutôt étonnant. Bon, en tout cas, on en tiendra par ailleurs, ça peut arriver à tout le monde, mais ça a fait beaucoup de bruit.
Ouais.
On enchaîne avec Google.
Nous sommes un média indépendant, non. Mais nous sommes une
vérification de
source. Voilà. <J'y arriverai. rire>
Exactement.
Comme cette information, voilà. Magnifique transition. Sur Google, effectivement, bon, c'est une petite brève, mais je trouvais ça assez, assez sympa, assez original. Enfin, sympa, c'est un grand mot. Google a acheté le point app. Donc, vous savez que depuis quelques temps, on peut acheter ce qu'on appelle des top-level domaines. Donc, des noms de domaines, je veux dire, personnalisés, on va dire ça comme ça. Hein, Lican a mis en vente ça récemment. Et évidemment, les grandes entreprises, on peut dire le GAFA, même s'il y en a d'autres sur le coup, ont décidé évidemment de se lancer dans la course à certains mots-clés. C'est logique que, par exemple, Google essayait d'acheter le point tech, quoi de plus logique. Malheureusement, il l'avait loupé pour l'occasion. Et donc là, ici, ils ont eu l'occasion de mettre la main sur le point app, app. Et évidemment, bah, ils ont mis le paquet, parce que les apps, c'est quand même le business model de ces dernières années. Ça serait un peu con de le louper. Et donc, ils ont déboursé 25 millions de dollars. Et maintenant, ça y est, Google peut vendre, s'il a envie, des noms de domaine en .app. Et comme je me disais avec un de mes collègues, quoi de plus logique que de fournir ce genre de service à ces développeurs qui mettent leurs applications sur le store en proposant d'avoir à chaque fois le nom de l'application .app pour pouvoir la télécharger plus facilement.
Ouais,
ce serait le plus
effectivement.
logique.
Après, est-ce que eux, je ne crois pas, hein, c'est une question, mais je crois qu'il n'y a pas eu de réponse, est-ce que eux ont communiqué sur l'utilisation qu'ils allaient en faire?
Ben, non,
Ou
pas
pas? Non, a
spécifiquement.
priori, pas
Non.
encore.
D'ailleurs, l'URL, dans l'article, le journaliste s'était amusé à tester. L'URL, c'est Google.app qui l'a testé, je pense. Ouais, et ça aboutit nulle part, en fait, voilà. Mais par contre, ils vont les mettre en vente sur leur plateforme, parce qu'ils ont déjà lancé, suite à ces ventes, une plateforme de. Comment de. Pas mise en vente, mais de location plutôt de nom de domaine. Son portail d'enregistrement, voilà, c'est le mot que je cherchais. D'enregistrement de nom de domaine. Et à mon avis, ben voilà, ils en feront très certainement un business. Hein. Ils peuvent vite récupérer leur bille, à mon avis. Surtout.
Oui, c'est sûr qu'il y a de quoi faire autour de ce nom de
Voilà.
domaine. Ils n'ont pas perdu leur argent,
Et
à mon
en
avis.
plus, à titre d'info, ils ont déjà acheté différents noms de domaine. Certains me posent un peu question. Le nom de domaine Soy, Soy par exemple, ou le nom de domaine .mina, MI2NA. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire avec ça, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon.
Oui, un peu étonnant, effectivement.
Voilà, je te laisse enchaîner.
On enchaîne du coup avec une news qui était catégorisée dans les news insolites. En fait, ça fait écho, on en avait parlé un peu déjà, alors je ne sais plus si c'était l'épisode précédent ou celui d'avant, sur en fait les potentielles dérives ou risques autour du crowdfunding. Et là, en fait, c'est une news qui part d'une question qui a été posée. Qui est, peut-on vraiment tout financer grâce au crowdfunding? Donc, c'est une question
La réponse est
légitime,
oui, voire la
puisque
salade de pommes de
par
terre.
moment, exactement, par moment, on se pose cette question. Je pense qu'on se l'est tous posé quand on a vu, notamment, voilà, par exemple, la salade de pommes de terre ou d'autres choses. Et du coup, bah, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui se passe concernant les contrôles et la sécurité des contributeurs et les contrôles de la véracité, en fait, d'un projet posté sur les sites de crowdfunding. Et donc, bah, pour tester ça, il y a une équipe, alors on ne sait pas exactement qui est derrière ça, mais qui c'est, ou en tout cas une personne qui s'est amusée à tester les différentes plateformes de crowdfunding en leur soumettant un projet de machine à remonter le temps, type retour vers le futur. Et donc, comment ils ont procédé ou comment il a procédé? Il a construit voilà toute sa page de présentation de son super projet de machine à remonter dans le temps avec un certain nombre de rewards. Donc, par exemple, j'en ai noté, ils sont assez drôles. $500 pour financer la DeLorean du film Retour vers le futur, $100 pour voyager en 1750 et $200 pour vous retrouver en 2065. Donc, assez drôle. La première soumission qu'ils ont faite, c'était pour Kickstarter, mais le projet a été immédiatement refusé, il n'a même pas été publié. Donc Kickstarter 5 étoiles niveau vérification. En revanche, ils ont ensuite envoyé exactement le même projet sur Indiegogo, qui a accepté de le mettre en ligne pendant près de 6 jours et a finalement en fait retiré de la liste des projets. Uniquement 6 jours plus tard, donc pas top. Et dernier test sur Rocket Hub. Alors chaque campagne est étudiée par une vraie personne, mais on ne sait pas comment. Celle-ci est passée au travers des mailles du filet. Elle a été identifiée après coup, mais elle avait déjà été publiée, retirée de la liste des projets, mais toujours accessible. Pareil, ça m'étonne aussi. Mais apparemment toujours accessible depuis Google si on tapait directement le nom du projet et le nom du site Rocket Hub. Donc grand vainqueur de la sécurité, en tout cas sur ce test, c'est Kickstarter, qui vérifie apparemment plutôt bien les projets qu'il publie et qu'il met en avant. Et on peut se poser des questions sur les autres qui ont quand même réussi à laisser passer une énormité pareille. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose de. Des projets que tu as vu passer où tu t'es vraiment posé la question Est-ce que j'ai affaire à une grosse arnaque ou à quelque chose de vrai?
Ça m'arrive régulièrement maintenant. Ça me fait juste dire vivement que Kickstarter arrive en France. Non, plus sérieusement, oui, c'est, bah, on l'avait déjà vu avec la salade de pommes de terre, même si là c'était un vrai projet, mais un petit peu ridicule. Bon, c'est assez marrant, oui. Je trouve que c'est assez marrant, mais en même temps, c'est vrai que ça. Comment? Oui, je sais pas où me positionner. C'est vrai que c'est, quand c'est vérifié humainement, c'est un peu étonnant que ça puisse passer. Maintenant, tous les sites ont aussi leurs failles, et des sites comme ceux-là reçoivent, à mon avis, des milliers de projets tous les jours. Ça va pas toujours être facile non plus d'arriver à tout suivre et de faire attention à tous les points de détail. Bon, après, en consumer,
après, je pense que c'est quand même un vrai, enfin, c'est quand même un aspect véritablement important. Alors là, c'est exagéré, c'est complètement, complètement irréalisable, et de toute manière, je pense que personne n'aurait réellement financé ou payé, ou en tout cas, en ayant imaginé une seule seconde qu'il allait recevoir quelque chose ou qu'il allait véritablement payer pour ça. Donc ça, c'est une chose. Mais du coup, je me dis sur des, enfin majoritairement en fait, les projets, notamment tech qu'on voit, sont des choses qui peuvent révolutionner ou qui vantent de révolutionner notre vie de tous les jours. Donc, on peut très rapidement croire à beaucoup de choses. Et ce qu'on demande à ces sites-là, c'est justement de nous mettre en avant et de nous donner accessible que les choses qui sont vérifiées, parce qu'on n'a aucun moyen de le faire, justement. On nous fait miroiter tellement de projets que si, si le site, tout l'intérêt du site et de la plateforme, c'est de vérifier la véracité du projet avant de le mettre en avant, je pense que c'est quand même vraiment important. Et encore une fois, Kickstarter en France, c'était une petite blague, mais c'est vrai que c'est des acteurs qui sont peut-être bon, au-delà dans la vérification de ce qu'on est capable de faire sur d'autres plateformes. Je sais pas.
Ouais. Non, tout à fait. Tu as totalement raison là-dessus. Ça, c'est pas la question. Après, juste une petite précision. Malheureusement, même si ils vérifient toujours derrière la véracité, enfin la possible véracité, de toute façon, ça, les gens doivent se le mettre à l'esprit. On n'est jamais à l'abri. Voir la fameuse montre Kreyos dont on a parlé dans d'anciens épisodes qu'on avait backé avec, avec Alex sur Kickstarter justement pour le coup et qui n'a jamais vu le jour et où l'argent est parti chez je ne sais plus quel soi-disant fournisseur chinois qui n'a jamais livré les pièces chez et voilà, heureusement nous on avait vu son, on avait senti le sapin du, on avait senti le truc on avait annulé avant, mais voilà, comme quoi, malgré que le projet ait l'air construit, fiable, intéressant, ça n'empêche que parfois, le financement participatif peut toujours s'avérer risqué. Bon, voilà, petite mise en garde.
On ne cessera de vous le dire et on mettra des bannières sur nos bannières, justement. Attention, le financement participatif peut suivre. dans un genre totalement différent, je vais te laisser assumer la news suivante.
Oui, bon, là aussi c'est du insolite, je préviens tout de suite. Donc, c'est vrai que là on sombre un petit peu dans le dans l'insolite et dans le, je vais pas dire jusque scabreux, mais parce que c'est juste une technologie au final. Donc c'est le site Pornhub qui a décidé de lancer un bracelet qui s'appelle le Wong Band. Et donc le bracelet Wong Band en question. C'est en fait un bracelet qui capte, qui recharge, plutôt, j'y arriverai, qui recharge une batterie via le mouvement. Donc ça s'appelle, comment ça s'appelle ça ? La piézoélectricité. Piézoélectricité.
Piézoélectricité, voilà.
C'est une énergie renouvelable dont le principe est de produire de l'électricité grâce à une pression exercée sur un matériau piézoélectrique. Et ça utilise. Ça utilise également l'électromécanique qui permet de produire de l'électricité grâce à un mouvement comme la variation de champ magnétique autour d'une bobine. Donc bien évidemment, vu le nom du site que certains, enfin, à mon avis beaucoup d'entre vous doivent quand même connaître, hein, il ne faut pas se leurrer, vous, même ne fût-ce que de nom, ne venez pas me la faire, on se doute bien comment le bracelet va être chargé et autour de quoi ils axent leur campagne de com. Ça, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qui est assez bien faite à ce niveau-là parce que honnêtement, elle est des petites illustrations simples, mais pertinentes, qui veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Bon, après, On ne sait pas encore exactement si ça va être réel, si ça va voir le jour, s'il s'agit d'une petite blague ou d'une petite technique de com. Mais en tout cas, ça semble faisable. Il semblerait que ce soit réellement dans les cartons. Et ils ont même lancé une page où ils recherchent des bêta-testeurs. Donc si parmi vous, cher public, il y a des gens motivés, allez-y, n'hésitez pas à foncer. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'émission. Je sais pas si le projet qui t'intéresse.
Tu m'intéresses. Non, mais après, je trouve ça. Alors, deux choses en fait. Si c'est effectivement purement de la com, je trouve que c'est très réussi et bravo, parce que justement autour du sujet, c'est pas forcément évident de sortir un peu vers le grand public et que les gens puissent en parler sans avoir une espèce de tabou quoi que ce soit. Je trouve que d'un point de vue com, c'est assez intéressant. Ça doit être très difficile d'être chargé de com pour ce type de site et justement atteindre un public au-delà d'un tabou, soit d'un voilà. C'est quand même pas quelque chose dont les gens parlent aisément. Donc, à la limite, belle action com. Et si en plus derrière le projet s'avère être un vrai projet, bah, je dis que c'est drôle, pourquoi pas avoir. En plus, après là, c'est un usage très spécifique, mais en soi, si la techno existe et que c'est possible, je pense qu'il y en aurait plein d'autres plein d'autres usages qui pourraient être appliqué.
Oui, que...
Donc doublement intéressant sur ces points de vue là, en dehors du côté
porno de la chose de la...
Exactement.
Mais parce que petite précision pour ma part, ce qui m'a un peu intéressé, c'est évidemment le coup de com bien réussi, parce que tant la vidéo que le site mis en ligne, c'est assez joli, c'est bien fait, c'est voilà, vraiment un coup de com réussi. En dehors de ça, on associe évidemment l'idée de mouvement par rapport à Pornhub, hein, je vous fais pas un dessin. Maintenant, ce genre de techno existe, et si réellement, après c'est comme ça est lancé, il y a d'autres choses, il y a d'autres mouvements qui font que ça peut recharger. Bon, c'est pas que le mouvement auquel tout le monde pense, donc ça peut avoir un réel usage, moi je trouve. Maintenant, à voir, mais voilà, on peut recharger en faisant du sport, par exemple.
Non, mais je pense d'ailleurs que c'est déjà utilisé dans certains systèmes de récupération d'énergie, d'autres. Enfin, je suppose que ça doit être une techno.
Ça existe, mais ça ne permet jamais de recharger autant qu'un smartphone, qu'un ordinateur, comme ils le montrent eux, en fait. C'est ça qui est assez étonnant dans celui-ci, c'est que c'est vraiment. Ils annoncent.
Oui, mais alors dans ce cas-là, j'aurais du mal à comprendre comment eux ont eu la capacité, parce que je suppose qu'ils n'ont pas une R&D d'ingénieur. Fou. Enfin, c'est là où je pense qu'effectivement, par contre, moi, mon intime conviction, c'est que ça reste quand même un élément de com très bien ficelé, mais derrière, je pense pas qu'ils aient réinventé la poudre.
Non, voilà, exactement. Maintenant, si concept il y a, je pense que ça peut peut-être être intéressant. Bon,
exactement.
Revenons sur les news en
Tout à fait, je retourne sur Google. Google n'a pas seulement acheté le point app, ils ont continué à faire des mises à jour, et notamment une mise à jour d'un projet, est-ce qu'on peut l'appeler encore projet, Google Inbox. Je ne sais pas comment tu le qualifierais, mais ça a été lancé en octobre 2014, donc c'est quand même relativement récent encore.
L'usage de saloperie, mais ça c'est une autre histoire. J'expliquerai.
Tu expliqueras ton expérience. Quoi qu'il en soit, ça a été lancé en octobre 2014. C'était disponible à l'origine sur Google Chrome, enfin via le navigateur Google Chrome et les deux plateformes iOS Android, en tout cas iPhone et Android. Et l'accès se faisait uniquement sur invitation à l'origine. Je crois que c'est d'ailleurs encore le cas, enfin je ne sais pas du coup parce que je n'ai pas cherché à me réinviter, mais je pense que c'est encore le cas. Et donc le principe de fonctionnement, c'est un client de messagerie qui est basé plutôt sur la hiérarchisation et l'organisation des mails. Un peu, alors il y en a plein qui ont cherché à faire ça avec différentes méthodes à chaque fois. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement de Inbox, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça lit le contenu de vos mails et que du coup, ça permet de le classer automatiquement pour si vous avez des billets d'avion, des places, des machins, des choses. Ça va les réorganiser pour les mettre en avant au bon moment, au moment où vous en aurez besoin. grossit le trait, mais c'est ça. Et vous pouvez aussi définir un certain nombre de règles vous-même de relecture, de d'archivage, un certain nombre de choses. Et tout ça apparaît dans un grand flux un peu à la Google Now. Donc c'est plutôt sympa. Et la news en soi, c'est que depuis le 19 février, c'est accessible sur iPad. Donc l'appli iOS est devenue une appli universelle, mais aussi Safari et Firefox. Donc ça s'élargit un peu. Moi, ce que je pense, c'est que à terme, Gmail deviendra Inbox. Ou en tout cas, ils vont réutiliser une grosse partie de ce qu'ils ont développé sur Inbox pour l'intégrer directement dans Gmail. Donc, intéressez-vous à ça pour voir ce que sera le Gmail de demain.
Non.
Est-ce que tu veux nous expliquer ta confrontation ?
Petite précision avant pour ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si tu l'avais remarqué. Depuis un certain temps, sur Gmail, en bas à droite, quand tu te logs sur Gmail et que tu es invité à Inbox, donc que tu t'es déjà connecté, tu as un petit icône qui s'est glissé, accéder à Inbox, qui est tout en bas à droite.
Ah, en fait, je ne l'ai jamais vu parce que du coup, je ne repassais pas par Gmail. Ah
ben voilà, donc maintenant, il l'affiche. Donc, c'est clairement, à mon avis, dans l'objectif, comme tu dis, de migrer le plus possible vers ça. Alors, le problème que j'ai avec Inbox et que beaucoup de gens comme moi ont, donc j'ai dit saloperie en rigolant parce que, honnêtement, c'est bien pensé, comme l'était Gmail avec ses filtres. Le souci, c'est justement ça. Les gens comme moi, qui sont adeptes du presque zéro Inbox, parce que bon, je ne suis pas aussi fou que certains, on va dire, mais qui ont déjà beaucoup de filtres dans Gmail, le gros souci qui se pose, c'est que vu qu'il y a déjà un filtre qui se fait à l'arrivée sur Gmail, Inbox qui repasse derrière et qui essaye de retrier à sa manière, au moment où je me suis inscrit, j'ai loupé plein de mails. J'ai retrouvé aucun de mes mails, j'avais plus aucune de mes habitudes, ils étaient plus au même endroit, certains disparaissaient purement et simplement, j'ai jamais remis la main dessus. Donc pendant un moment, j'ai loupé des emails, et voilà, c'est évidemment dommage que ça ne se met pas en relation avec...
C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il faut bien effectivement considérer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même le cas. Il faut considérer Inbox comme un client mail et Gmail, par exemple, comme étant, alors, pour simplifier, le côté serveur.
Oui, l'outil.
Ou en tout cas, je dirais quand même le côté serveur. Et Inbox va se connecter à la manière d'un Outlook, d'un mail sur Mac ou quoi que ce soit. Et va récupérer en fait le flux de Gmail.
Mais non, parce qu'à ce moment-là, le problème c'est que Gmail, pendant des années, ils ont mis en avant le côté justement webmail qui était aussi, voire plus performant que des outils comme Outlook ou autres. Ils ont instauré des systèmes de filtres que des gens comme moi ont utilisé énormément. Et ça pose des problèmes
avec. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la source même en fait. C'est pour ça que, alors c'est pas vrai techniquement ce que je dis, hein, le côté client et serveur. Inbox n'est pas vraiment un client et Gmail n'est pas vraiment non plus un serveur, c'est aussi un client, enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, pour simplifier ce que tu disais toi, c'est qu'effectivement, par contre, il y a une première vague d'actions qui sont effectuées à la réception des mails par Gmail et l'action automatisée d'Inbox qui vient supplanter l'action déjà effectuée par Gmail. Et du coup, là, on a affaire à des conflits. Donc, en fait, Inbox vient bien faire son traitement post-traitement Gmail.
Oui, c'est ça, voilà. Après, pour ceux, justement, qui n'ont pas ces filtres Gmail, qui ont une boîte Gmail en bordel total avec des centaines de mails partout, Inbox, je pense que c'est génial. Je pense que ça peut vraiment révolutionner leur façon de voir le mail et découvrir quelque chose que j'ai découvert il y a très longtemps via justement les filtres. Donc, je pense que ça vaut le coup d'être essayé quand même pour ceux qui n'ont pas cette habitude-là.
Sachant que ça va un cran plus loin, bon, Gmail le faisait déjà, mais juste pour le rappeler, par définition, il y a bien une analyse de votre contenu de mail qui est faite pour pouvoir en comprendre justement comprendre l'enjeu du mail en quelque sorte et savoir où le trier, comment le mettre en avant, même sur l'affichage est fait s'il y a des pièces jointes, il est fait de telle manière que si la pièce jointe est effectivement le cœur du mail en quelque sorte, elle sera beaucoup plus mise en avant dans le flux global, que le contenu textuel. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Donc, il y a bien une analyse, en tout cas, du contenu de vos mails qui est effectué.
Faut juste parce que Gmail, parce que Google lit nos mails. Ah bon?
Non, non, mais voilà, c'est bien ce que c'est pas une nouveauté, ça le faisait déjà, mais.
Oui, c'était une, voilà. Donc, une petite présenterie.
Petite. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Vous pouvez le tester sur encore plus de devices. Amusez-vous à l'essayer.
Bon, je vais faire vite pour terminer avec la dernière news, enfin la mienne, qui est une news en réalité de nous deux. Hein. On l'a à nouveau, on l'a vu, on a cité tous les deux dessus. Tu me l'as gentiment laissé pour le coup, peut-être parce que j'ai un enfant, qui sait. Donc c'est YouTube, la plateforme vidéo de Google, qui va lancer une version de son application dédiée aux enfants. Donc pour le moment uniquement sur Android, comme on s'en doute, et ça s'appelle simplement YouTube for Kids. Donc l'application en fait c'est très simple, hein, c'est une interface réservée aux enfants, avec à l'intérieur différents shows pour enfants, différentes vidéos qui ont été sélectionnées par Google, qui sont des contenus réservés aux enfants. Donc pour le coup, pas de Pornhub, là, on vous rassure. Et donc, voilà, je trouvais ça personnellement très pratique. Moi qui ai une petite fille qui aime bien regarder aussi certaines vidéos, je trouve ça sympa, je vais dire, en plus, elle a une tablette, geek oblige. Enfin, elle a une tablette. Voilà, il y a une tablette qui lui est attribuée et qu'on lui prête de temps en temps. je trouvais ça sympa de pouvoir lui laisser entre les mains avec la connexion internet et si elle a envie d'aller se balader sur YouTube et de regarder différents contenus qu'on n'a peut-être pas nécessairement local ou sur un DVD ou autre, bah, de pouvoir y accéder. Bon, pour le moment, évidemment, c'est d'abord lancé aux États-Unis, donc en anglais. Donc pour ma fille, ça va être un peu râpé, même si ça pourrait peut-être lui permettre d'apprendre l'anglais, qui sait. Ouais, je sais pas si toi. Je pense pas que t'es d'enfant, si je ne dis pas de bêtises.
Absolument pas.
Donc qu'est-ce qui t'avait marqué dans cette news, en fait?
Qu'est-ce qui m'avait marqué? Non, bah c'est, encore une fois, en fait, un peu dans le même esprit que ce qu'on avait évoqué pour... c'était Dailymotion qui avait lancé une version spécifique pour les jeux vidéo. En fait, moi, ce qui m'intéresse globalement de ces acteurs-là, c'est de voir quels sont les prochains mouvements qu'ils vont pouvoir faire. Et j'ai l'impression, quand même, d'une manière générale, que la segmentation de leur contenu par typologie va se renforcer. La simple catégorie de vidéos sur un site généraliste de vidéos ne suffit plus. Et ils ont tendance maintenant à se rendre compte qu'ils ont une telle densité de contenu qu'ils pourraient quasiment faire des sites exclusifs pour chacune de ces catégories-là. C'est le cas dans les jeux vidéo, on l'a vu, c'est le cas maintenant pour les enfants, donc apparemment c'est effectivement, il y a une quantité de contenu énorme, et en plus de ça, il y a des attentes qui sont spécifiques, notamment pour les enfants, après c'est vrai aussi pour les jeux vidéo, et qui sait, peut-être pour d'autres domaines, pour l'automobile, pour la tech, pour plein de choses, se rendre compte qu'en fait les utilisateurs par thème ont des besoins différents, même peut-être au niveau de l'expérience utilisateur du site, il faut l'adapter, recatégoriser différemment en fonction du thème. Je trouve ça intéressant de voir, j'ai l'impression que c'est une tendance assez, assez globale des grands acteurs, enfin, en tout cas de l'acteur principal et de ceux qui le suivent, qui essayent de résister. Donc c'était ça en fait qui m'intéresse.
Il faudrait qu'on invite un responsable ou quelqu'un qui travaille pour une de ces plateformes, justement, pour invoquer le sujet, juste, ça pourrait être intéressant.
Ouais, tout à fait, ça pourrait être intéressant.
Ils avaient même lancé des chaînes YouTube il y a un certain temps d'ici. Ils ont des chaînes cuisine, des chaînes sport, des chaînes. Donc, oui, ça montre très bien cette volonté de catégoriser, justement. Petite précision, avant de continuer plus loin, que j'ai oublié, qui est important pour les amis parents, si vous m'écoutez. l'application permet aussi une petite chose, c'est de bloquer le temps d'accès. Donc on peut déterminer que l'enfant a accès durant telle période ou de telle heure à telle heure, et bloquer via un mot de passe au-delà de ce créneau horaire pour qu'il ne puisse plus y accéder. Donc voilà, ça c'est quand même...
C'est un très bon exemple d'un usage spécifique à cette catégorie de population.
Oui, parce que c'est parfois très difficile quand tu commences à leur laisser la tablette, très difficile de leur reprendre, ouais, après.
J'imagine.
Ça je peux le dire.
J'imagine. Donc s'il y a un blocage automatique, c'est beaucoup plus simple. Quand la tablette est inutilisable, je pense que l'intérêt pour la tablette commence à diminuer.
Exactement. Oh, elle est cassée, zut alors. Allez, donne-la, papa.
C'est ça.
Bon,
alors ça ne va pas ça va pas être une news pour ta fille, ou en tout cas pas pour maintenant. Mais Tinder, le fameux site de rencontre entre jeunes et adultes, vous comprendrez pourquoi vous comprendrez pourquoi je dis ça un peu plus tard, vient de lancer une version payante, en tout cas une partie premium de l'application Tinder. Alors ça a été annoncé aujourd'hui même, le 3 mars. Et donc la formule payante, elle va proposer une chose pour le moment, dont on est sûr, c'est la possibilité de faire l'équivalent d'un contrôle Z, commande Z, pour retourner en arrière après avoir jugé un utilisateur. Donc je rappelle, Tinder, application de rencontre, où en fait vous jugez sur un profil qui est limité à une image. Attendez que je me souvienne bien. Il y a une image, le nombre d'amis en commun et un certain nombre d'autres éléments, mais c'est vraiment très succinct. Et vous slidez vers la droite ou vers la gauche pour dire si vous appréciez ou pas a priori la personne. Et si les deux personnes des deux côtés font le choix que l'autre l'intéresse, il y a un match et vous pouvez commencer à discuter. Une fois que vous avez fait un choix, que ce soit accepter ou refuser une personne, vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Ce que propose cette fonction premium, ce sera de le faire. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres fonctionnalités exclusives qui ont été précisées. J'ose espérer qu'il y en aura un peu plus sur les formats premium, parce que je trouve ça un peu léger quand même si c'est à vendre. Mais moi, ce qui m'intéressait particulièrement en fait dans cette news, c'est la tarification qu'ils veulent appliquer. Et c'est pour ça que je disais que vous soyez jeune ou moins jeune, ça va avoir une importance en fait. Ils veulent mettre en place un business model. À mon avis, on n'a jamais vu ça encore, je me trompe peut-être, mais moi j'ai jamais été confronté à ça, où en fait, en fonction de votre âge, vous n'allez pas payer la même somme. Typiquement, j'ai deux exemples qui ont été précisés, c'est qu'aux États-Unis, les moins de 30 ans paieront 9,90$ par mois, et les plus de 30 ans, 19,90$. Au Royaume-Uni, c'est pas la même limite d'âge, c'est 28 ans, en deçà, ça va être 3,99 livres, et au-dessus des 28 ans, 14,99. Et les tarifs pour les autres pays, ils n'ont pas encore été dévoilés, mais ça devrait pas tarder à tomber. Donc c'est une façon un peu originale d'inciter une partie de son public, de resegmenter ses utilisateurs, et ça dénote bien de l'intérêt de Tinder de se focaliser sur une population relativement jeune, a priori en tout cas, ou de prendre en considération ça pourrait être un autre élément, c'est de prendre en considération le fait que les jeunes ont a priori peut-être moins d'argent à consacrer. Bon, voilà, c'est le business model qui a a priori jamais été employé auparavant qui m'intéresse. Je trouve ça assez drôle, donc bon, bah, à voir. Je ne sais pas si l'application a été... C'est une news qui vient de tomber, hein, donc je ne sais pas si l'application a été mise à jour, si c'est déjà en ligne. Je n'ai pas suivi, là, juste avant l'enregistrement, l'évolution de cette info.
Je t'avoue que moi, je n'utilise pas, donc je ne saurais pas beaucoup t'aider. Ce n'est pas le type d'application qui m'intéresse, évidemment. Hein, je ne vais pas rencontrer des gens pour le moment.
Non, j'imagine.
Le business model, c'est vrai, est original. Et je me dis d'un côté, pourquoi pas. J'ai vu beaucoup de réactions sur Twitter de gens un peu... pas énervé, mais oui, remonté par rapport à ça, qui justement fustigeait un peu l'idée de payer plus quand on était plus vieux. Mais au final, je me dis, bah, pourquoi pas, il y a tout un tas de services au final qu'on paye avec l'âge. Je sais pas, par exemple, je sais pas si c'est le cas en France, mais en Belgique, les transports en commun, tu payes moins cher quand t'es plus jeune, tu as des billets spéciaux, et ça choque personne, donc...
Alors, il y a le principe de tarif réduit, mais qui... aujourd'hui, alors, n'est pas vraiment appliqué sur des business models web, hein, sur des applis web ou sur des choses comme ça.
Ah oui, non, je sais bien.
C'est appliqué, voilà, sur les transports publics, sur le cinéma, sur un
certain nombre de choses. Ah oui, tout à fait, mais justement, c'est là que je veux en venir. C'est nouveau dans le business du web, et forcément, ouais, ça va faire rager. Je veux dire, c'est déjà appliqué ailleurs, donc pourquoi pas? Pourquoi ça ne pourrait pas s'appliquer dans le web? C'est là que je veux en venir, effectivement. Donc, à essayer, mais voilà. Après, je suis pas public cible, je pense.
Certainement pas, en effet. Donc voilà, j'en ai fini, et je pense qu'on en a fini avec les news du web.
Ouais, c'était costaud, n'est-ce pas, vous avez dit.
C'était costaud, on va continuer à accélérer, et du coup on passe directement au projet du web. Et on commence avec toi, qui a une magnifique news à nous annoncer.
Oui, bah j'aime bien personnellement, donc voilà, j'aime bien cette
compagnie. Ouais, moi aussi.
D'accord. Donc, c'est Peeble qui est connu pour sa montre connectée, pour quasiment la première montre connectée, on peut le dire comme ça, la première vraiment à avoir marché, grand public, celle qui a amorcé le retour des montres connectées.
Celle qui était viable en plus, qu'on pouvait porter au poignet sans penser que la batterie allait,
oui, ça, c'est le
allait tomber en rade au bout de 2 minutes.
C'est clair, enfin, c'est la
vraie utilisable, quoi.
Le gros point. Et donc, depuis lors, évidemment, tout le monde s'est lancé dans le credo. Android, il y en a une multitude. Apple, l'Apple Watch est déjà annoncé. À mon avis, il ne devrait pas tarder à arriver. Il y a une conférence d'ailleurs bientôt. Mais Peeble, malgré tout, n'est pas en reste. Donc, depuis le lancement de leur première montre, ils avaient lancé la Peeble Steel, qui était grosso modo quasiment la même, avec un bracelet un peu plus joli. Et voilà, plus rien depuis. Donc on avait plein de modèles à côté, et chez eux, on restait sur un écran en fait monochrome, parce qu'il faut savoir que la force de Peeble, comme tu le disais si bien, c'est cette autonomie, justement. C'est le fait de pouvoir tenir des jours et des jours sans devoir recharger, parce qu'elle utilise un écran e-ink, donc ce sont des écrans type liseuse, genre Kindle, Amazon, pour ceux qui connaissent, ou Kobo, qui sont donc des écrans de sorte d'encre virtuelle, on va dire, qui ne consomment quasiment rien au niveau autonomie. Et c'est ça qui a fait sa plus grande force. Et donc ici, ils avaient annoncé depuis quelques jours leur retour avec un nouveau projet, et est sorti il y a 7 jours d'ici exactement, la nouvelle Peeble Time, qui est leur nouveau produit, qui est en fait repose sur le même principe d'une montre connectée avec écran e-ink, mais cette fois-ci en couleur, et toujours avec une autonomie assez énorme. Ici, ils annoncent un peu plus de 10 jours de batterie. Donc, on est clairement loin de... qu'est-ce qu'il y a comme monde, Motorola ou LG, où chaque soir, à côté du smartphone, il faudra recharger. Ça, c'est pour moi le gros frein actuellement à toutes ces montres. Là, vous êtes tranquille, environ 10 jours, c'est ce qu'ils annoncent. Alors, le lancement de la campagne Kickstarter a été une vraie folie. Je crois qu'ils ont explosé les records. Là, c'est du jamais vu. Il visait un objectif de 500 000 dollars. Il l'a atteint en 17 minutes exactement. C'est quand même extraordinaire. Alors,
je crois qu'on tient un record.
Hein. On tient un record, clairement, oui. Parce qu'à l'heure où je vous parle, donc nous sommes le 3 mars, il est 23h, approximativement. Le compteur indique près de 60 000 backers. On est à 59 353. Et plus de 14 millions de dollars. Donc, pour un objectif à 500 000... ils ont 28 fois la mise pour le moment, et il reste encore 24 jours de campagne. C'est quand même assez hallucinant. Alors, pour ma part, j'avais évidemment backé dans les tout premiers. J'ai vu arriver le projet, ça fait longtemps que j'hésite à acheter une Peeble. Bon, voilà, pour le coup, j'ai pas hésité, surtout que les premiers backers l'avaient à 159 $. Ça, n'essayez même pas. Les 10 000 qui étaient prévus en 159 $ sont partis en quelques instants. Elle est maintenant disponible à 179 ou 179 pour les amis français dollars. Et le prix de vente normalement annoncé, donc une fois qu'elle sera sortie dans le commerce, sera de 199 ou 199 dollars. Plus évidemment les frais de port pour le coup, oui, sur Kickstarter il y a 10 dollars de frais de port. Mais, petite précision, depuis lors, Peeble a décidé qu'ils allaient en même temps dans cette campagne lancer la version Steel. Donc la version Steel, donc, pour info, les Peeble de base ont cet aspect un peu, pas jouet, j'irai pas jusque là, mais des bracelets un peu plus cheap peut-être, un peu plastique, un peu. Et la Steel, c'est la version, si vous voulez, un peu prestige, qui a un joli bracelet, qui fait un peu plus montre. Bon, ça reste, l'écran ink, ça reste un peu, mais bon, ça fait plus montre. Et donc ils ont décidé de l'inclure à ce financement, et à les proposer donc à, que je dise pas de bêtises, 250 dollars. Et voilà, moi j'avoue ma faiblesse au passage, je sais pas si toi tu y as été, mais moi je suis faible, donc j'ai changé mon bac et je suis passé à 250$ pour la style. J'ai craqué.
Wow. Non, j'ai pas fait, non, j'ai pas passé le cap, mais j'aurais hâte d'avoir ton retour du coup concernant le produit.
Tu n'as pas baqué du tout en fait.
Non, non, mais en fait, je tiens à préciser que en ce moment, je suis de retour aux études avant de retourner dans mon entreprise. Du coup, les finances ne me permettent pas de baquer beaucoup de projets. Mais dès que ça reviendra, dès que le salaire reviendra, je pourrai à nouveau recommencer ce genre de petite folie.
Oui, parce que là, clairement, c'est du gadget de geek, hein, il faut pas se leurrer. Surtout 250$, c'est juste pour avoir la belle montre, quoi. J'avais envie de me faire plaisir. Sinon, que dire? Ben, elle est donc écran in couleur, elle est waterproof, disponible en plusieurs couleurs. Voilà, et puis c'est Bubble, quoi. Donc ils ont fait leur preuve, on sait ce que ça vaut et on sait que non seulement il n'y aura pas de soucis avec cette campagne, ni avec le produit normalement après. Mais qu'en plus on aura quelque chose de bien pensé et surtout avec une autonomie convenable. Et ça pour moi c'est le gros point. Donc voilà, et normalement on se retrouve à la prochaine émission, juste pour annoncer le record parce que... Ah non, pas la prochaine, celle d'après. Pardon, j'ai mal vu le... Donc voilà, on vous tiendra informé, mais à mon avis on tient le record, toute plateforme de crowdfunding confondue.
Ouais, il y a des chances. Et de toute manière, en termes de timing, ça c'est sûr qu'ils ont eu le record. On va enchaîner parce qu'on se perd dans le
Mais
temps.
non, mais non. Si l'épisode durera un tout petit peu plus, les gens nous pardonneront.
Exactement. Du coup, j'enchaîne avec un projet aussi sur Kickstarter qui lui, pour le coup, alors là, il y a tout à faire puisqu'il a été lancé aujourd'hui pour un objectif de 5 000 $. Ça s'appelle Lighter Alarm. À vrai dire, en fait, j'y crois pas trop. C'est un peu dans la mouvance de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on se demande vraiment si c'est un vrai projet ou pas.
D'accord.
Mais ça m'a fait rire et en fait, ça répond quand même à un vrai problème. Ou en tout cas pour une partie de la population qui est une partie de la population fumeuse. Le pitch, je vous le fais rapidement, 2,19 milliards de briquets vendus par an. Chaque jour à travers le monde, plus de 6 millions de briquets sont achetés par les consommateurs. La question qui se pose, combien d'entre eux disparaissent chaque année? Donc je pense que c'est quelque chose qui pourra évoquer ou faire émerger un sentiment que chez les fumeurs. Mais cette disparition du briquet, c'est une vraie problématique. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, on se le fait voler, on le prête, on ne le revoit jamais. Et donc l'idée de ce projet, c'est de proposer un petit boîtier porte-briquet assez discret, qui communique en Bluetooth Low Energy et qui permet d'identifier le briquet jusqu'à environ 45 mètres, enfin la portée du Bluetooth Low Energy, avec éventuellement même une distance paramétrable sur l'application. Et ça permet donc trois usages, d'activer un mode recherche pour suivre votre briquet s'il est à portée de votre téléphone. Et vous pourrez même émettre un son depuis le briquet pour le retrouver si vous l'avez perdu. Un mode Save It. Le téléphone en fait vous alertera si le briquet se trouve hors de portée de la zone que vous avez définie. Et donc c'est courir rechercher le voleur de briquet à ce moment-là. Et le misplaced it, si le briquet il n'est plus du tout à portée, donc à portée du Bluetooth, l'application vous montrera sa dernière position. Bon, ils n'ont rien réinventé, les technologies, il n'y a rien de fou. C'est juste assez drôle de l'appliquer à ça et à un problème qui n'est pas fondamental, mais en même temps, bon, ça coûte pas une fortune, c'est assez drôle, pourquoi pas. Vous avez plusieurs paliers, je vais m'intéresser juste à deux paliers. Alors le briquet, si vous êtes aux US, c'est 20$ pour baquer et pour avoir. C'était 15$ en early bird, mais c'est 20$ maintenant. Enfin, ça, non, il y a encore des $15 d'ailleurs de disponibles. Sinon, $25 pour être livré à l'international. Et vous avez donc votre superbe porte-briquet Bluetooth dans lequel vous pouvez mettre une pile, ça dure très longtemps. Et c'est magnifique. Donc voilà, dans la mouvance des projets On sait pas trop, mais c'est rigolo.
Ça me rappelle un ancien projet, enfin il y en a déjà eu plusieurs hein, de ce genre-là où on pouvait mettre des petits patchs un peu partout pour retrouver, ne pas perdre des objets. Mais dans un précédent épisode, on avait parlé de l'appât, qui est une espèce de porte-clé. C'est pas vraiment pour le briquet pour le coup, mais c'était un porte-clé Bluetooth du même genre. Donc tu attachais ça à tes clés et si tu les perdais, ben, tu pouvais via le smartphone lui demander d'émettre un petit son pour retrouver tes clés. Donc voilà, c'est même dans la même veine que ce type de projet. Des petits gadgets sympas qui peuvent toujours être utiles. Bon, pour le coup, je suis pas fumeur, mais voilà.
Bah, du coup, on peut enchaîner.
Excuse-moi, je m'interromps juste. Ce
Oui.
petit souci technique.
Non, non, mais continue, on peut
Ah,
continuer, il n'y a pas de
excuse-moi,
problème.
j'aurais mis une coupure quelque part, mais désolé. C'est parce que ça,
Pas
on
de
aurait cassé le
problème.
jeu s'il y a vraiment un souci technique. Bon.
Non, non, c'est un faux souci technique et je pense même qu'on ne coupera pas ça au montage pour montrer l'authenticité de nos
Oh, comme c'est beau,
enregistrements.
c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon alors, moi, un petit truc très rapide. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. Ça s'appelle Tago Arc. Déjà le nom, bof personnellement, mais ça c'est mon avis. Et c'est simplement en fait un bracelet qui permet, avec un écran e-ink, pardon, qui permet justement de customiser au quotidien son bijou en fait. Donc tu as une série de skins et à mon avis tu peux très certainement en créer que tu vas afficher dessus pour changer un petit peu de style et de look en fonction de tes envies, de ta façon de t'habiller, etc. Donc à la base, je suis tombé dessus sans spécialement plus que ça, mais j'ai une collègue féminine à côté de moi qui, quand elle a vu l'objet, m'a tout de suite dit « C'est génial, où est-ce qu'on peut acheter ça ?» Enfin, elle était complètement emballée. Donc je me suis dit « Pourquoi pas en toucher un mot ?» C'est vrai que, bon, étant un homme, c'est peut-être ça qui fait que, mais c'est pas vraiment... l'objet n'est pas à mon goût, on va dire. C'est une campagne qui se trouve sur Indiegogo, qui a été fondée. Hein, ils cherchaient à avoir 40 000 dollars, ils en ont eu 83 000, donc... Pour le coup, on peut dire merci à ma collègue féminine. C'est un bracelet qui coûtera environ 200 dollars. Après, bon, on aime ou on n'aime pas le design. Maintenant, c'est vrai que ça change, que l'idée est originale. Voilà, j'ai pas grand-chose à en dire, mais j'avais envie de le placer parce que ça plaisait à ces dames. Enfin, pas à toutes, parce que pour le coup, je l'ai montré à ma femme le soir et elle n'aime pas tellement le design du bracelet. Donc, c'est ça le problème, c'est que malgré tout, l'objet en lui-même a son design propre, malgré tout ce que tu peux mettre dessus. C'est ça qui est encore peut-être un peu dommage, mais bon.
Ouais, exactement. Bah, faut effectivement aller le voir. Il existe en doré
En
ou
noir.
en argent
En
pris, par
doré ou en
contre.
noir, en
Enfin,
fait.
ouais, voilà. Ou en noir. Juste une toute petite
Et en
précision.
plusieurs couleurs, pardon, excuse-moi, j'ai oublié. Non, j'ai vu mal vu, il y a plusieurs couleurs.
Ouais, exactement. Mais du coup, moi, une précision qui, pour le coup, peut en rebuter certains. Android only. Donc, si vous
C'est
avez...
vrai que,
Si vous êtes sur
étant
iOS...
utilisateur Android, je ne fais pas toujours attention, je devrais, tu as raison.
Voilà. Et donc il justifie ça parce qu'effectivement, pour transférer des images que vous auriez prises sur le bracelet pour les afficher sur le bracelet, il passe par la technologie NFC qui est semi-existante sur l'iPhone 6 mais bloquée et pas existante du tout sur les iPhones précédents. Donc, a priori, ils disent qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui de l'exploiter.
Alors, petite
Voilà.
précision quand même, ma femme, j'ai précisé, n'aime pas l'objet en lui-même, parce que le bracelet a son style à lui, hein, est quand même un peu massif, avec un contour doré ou couleur, pas toujours du plus bel effet à mon sens. Mais par contre, les possibilités qu'on peut imaginer dessus, bon, il limite à certains brands tout faits, mais si on peut créer réellement les siens et qu'on peut afficher des photos plus personnalisées, ça peut être quand même quelque chose de sympa et d'original. Donc voilà.
Oui, non, mais c'est le cas, hein. Ça, par contre, je te le confirme, tu peux prendre une photo ou la récupérer sur Internet et l'afficher et la transférer sur le bracelet.
Ah ben voilà, je n'avais pas vu qu'on pouvait le faire, donc ben parfait alors. Une bonne nouvelle. Pour ces dames.
Du coup, on enchaîne encore une fois avec un autre projet, Sésame, ouvre-toi. Le projet s'appelle donc Sésame, c'est aussi une campagne Kickstarter. C'est un système. Alors, je vais le faire très vite parce que, en plus de ça, je me suis rendu compte en fouillant après dans la FAQ que, a priori, c'était pas applicable en France ou enfin, en tout cas en Europe, à vérifier. Mais c'est un système en fait qui permet d'ajouter un petit bloc automatique sur vos verrous et donc de déverrouiller ou de verrouiller votre porte en utilisant une application. Encore une fois, toutes les technologies type Bluetooth, etc., sont utilisées pour savoir si vous êtes à proximité. Vous pouvez débloquer du coup la porte de chez vous en tapotant sur votre iPhone ou en faisant un jeu de comment je puis dire, en tapant sur votre porte, mais en tapant avec un rythme spécifique pour qu'il vous reconnaisse. Et en plus de ça, étant donné que vous êtes à proximité, qu'il reconnaisse le téléphone et du coup il vous laisse rentrer. Ça vous permet aussi de gérer à distance, si vous autorisez l'entrée dans votre maison à une personne donnée. Enfin voilà, il y a toute une palanquée de possibilités qui sont assez drôles. Et a priori, ça convient à tout type de porte. Ça s'installe en quelques secondes. Il suffit de fixer le bloc sur votre loquet et ça gérera tout seul. Par contre, ce que j'ai vu du coup juste avant l'enregistrement, c'est que ça s'adapte sans aucun qu'une modification au préalable avec n'importe quel système de verrou aux États-Unis, au Canada et en Australie, grâce à des mécanismes d'auto-ajustement, ce qu'ils disent. Par contre, on n'en sait rien pour tout ce qui est de nos beaux pays et de tout le reste du monde, en fait. Donc ça serait bien d'approfondir. Je vous ferai un retour si j'arrive à avoir l'info, qui n'est a priori pas précisée. Donc je vais essayer de me renseigner et je vous ferai un retour. Mais sinon, je trouve le projet intéressant. Il y a déjà 2660 personnes qui ont financé. Ils ont été 4 fois supérieurs à l'objectif de 100 000 dollars. Ils sont à 416 000 dollars. Et il reste encore 53 jours. Donc, longue vie à eux. Et le prix de base est à 99 dollars. Voilà.
Sabbatique.
Est-ce que tu serais utilisateur juste?
Oui,
Si c'était
si c'était
adaptable?
adaptable déjà, et oui, si, tout à fait. Maintenant, je sais qu'il existe d'autres systèmes du genre que j'avais déjà lu sur différents blogs, donc à voir ce que celui-là offrirait de plus, mais oui, je serais utilisateur, en effet.
Je pense que justement, l'intérêt de celui-là, c'est la simplicité d'installation. C'est-à-dire que je suppose que ça existe déjà des systèmes de verrous ou de portes dans leur ensemble. Là, tout l'intérêt, c'est que c'est un petit boîtier que vous venez poser quasiment, enfin, au-dessus de la poignée sur le verrou et qui s'occupe de manier à votre place le verrou de l'intérieur. Et donc, l'installation est ultra simple. Il suffit de poser le boîtier et c'est parti. Donc, je pense que c'est ça l'intérêt majeur de ce
Je
projet.
pensais que ça ne nécessite pas des modifications, mais bon, après, c'est vrai que. Ouais, non, si, pourquoi pas, je ne sais pas. Je me suis déjà posé la question de le faire, donc il faudrait que j'y réfléchisse et que j'approfondisse un peu plus pour pouvoir te répondre. Bon, je vais terminer ici les projets, comme ça on pourra passer sur quelques petits retours avec un projet qui m'a été recommandé par nos amis de chez Close to Shop. Donc, pour expliquer juste un tout petit peu, pour contextualiser, on a parlé la dernière fois, dans la dernière émission de Close to Shop. Je sais pas si tu te souviens, ce système pour recevoir des newsletters sur des adresses e-mail de type jetable et qui
Tout
t'envoyait un
à fait.
résumé tous les jours. Donc, ils ont un blog assez sympathique, un compte Twitter assez actif. Et suite à cet épisode, ils nous ont envoyé des retours, on a un peu interagi avec eux. Je les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Et grâce à eux, j'ai découvert un service que. En fait, je crois que j'avais déjà entendu parler, mais j'ai jamais prêté plus attention que ça, qui s'appelle brief.me, donc brief.me, qui en fait est un concept très simple, justement de newsletter, hein, donc comme quoi ça les arrange bien. Donc, le principe, c'est que tu t'inscris via ton email, et brief.me, en fait, c'est une équipe de rédacteurs qui s'occupe de te condenser l'actualité du jour et de te l'envoyer par email tous les jours, une version condensée des faits marquants qu'on trouve un peu partout dans la presse, qu'on peut trouver un peu partout dans les médias. Donc pour les gens qui, comme moi, essayent de lire l'actualité, de se tenir au courant, mais n'ont pas assez le temps et ne lisent pas assez à leur goût, ça peut être une alternative assez intéressante. J'ai pas encore, je suis toujours dans la période d'essai gratuite de 15 jours. Donc je ne sais pas encore me prononcer sur la réelle plus-value, si réellement tout est fiable, etc. Jusqu'à présent, ça m'envoie l'essentiel, on va dire, de ce que j'ai vu. Ça me permet de lire un petit résumé quotidien, je suis au courant d'un peu tout ce qui se passe. C'est vrai que ça ne va pas chercher dans des domaines très spécifiques, que je peux moi chercher quand je fais ma veille pour le podcast, ou ma veille tech, ou pour le travail. Tout ça, je ne le retrouve pas. Clairement, c'est pas le but. Mais j'ai l'actualité, je veux dire, généraliste, l'actualité des grands médias. Donc, bon, un bon petit service sympathique. Je dois approfondir un petit peu plus. Je vous en ferai peut-être un retour plus tard. Avant de pouvoir quand même me prononcer. Et donc, à titre d'info, j'ai dit, hein, c'est 15 jours gratuits. Je suis justement dans la période d'essai. Au-delà des 15 jours, c'est un abonnement mensuel. Qui peut être contracté donc soit pour un mois, et on peut s'arrêter chaque mois donc à 5,90€, 5,90€ pour nos amis français, ou si on le prend à l'année, 46,80€ à l'année, soit un total mensuel de 3,90€. Donc voilà, c'est pas exagéré, c'est en quelque sorte comme si on s'abonnait à plusieurs quotidiens d'un coup, sauf qu'on a un condensé. Moi, je ne sais pas si tu serais utilisateur de ce type d'outil.
Bah, je trouve le système super et je pense que je le recommanderais facilement. Après, personnellement, je pense que je ne suis pas tellement la cible. Peut-être, à vrai dire, je dirais même toi non plus, sans m'avancer trop. C'est-à-dire qu'on est baigné dans l'information qu'on consulte, nous, toute la journée, pour justement le podcast ou pour plein d'autres choses. Et je suppose que comme moi, entre tes flux RSS, ton Twitter, etc., tu as vu ces news passer dans la journée. Je pense que justement, l'intérêt, c'est plutôt pour les gens qui veulent avoir ce condensé qui est fait automatiquement et qu'ils puissent juste le consulter en fin de journée. Donc oui, ça, je comprends tout à fait la cible, l'intérêt. Je pense que ça pourrait... Enfin, je recommanderais volontiers. Après, moi, personnellement, je ne sais pas si ça m'apprendrait beaucoup de choses en fin de journée.
Moi, étonnamment justement, je pense pas, tu vois. On est justement baigné dans tout un univers, par les réseaux sociaux, par notre veille, etc. Mais j'ai l'impression parfois, justement, que je tourne un peu en rond dans les mêmes domaines de prédilection qui ont déjà un contenu tellement énorme que j'ai même parfois du mal à suivre. Et justement, je trouve souvent, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai traditionnellement, avant d'utiliser ce système, j'allais sur le site de médias traditionnels où je lisais, j'achetais un journal. Et oui, un journal papier. Pour essayer justement de coller une actualité plus traditionnelle, on va dire, plus terre-à-terre, plus des choses que je ne lis pas ailleurs. Et c'est ce que m'apporte Brief Miami pour le moment. Je tombe sur des petits résumés d'articles et de sujets que je ne vois pas passer dans mes flux, justement. Une actualité peut-être un peu différente de ce que j'ai l'habitude de voir, moi. Donc, à voir à terme ce que j'en pense, mais pour le moment, étonnamment, j'ai l'impression d'être dans la cible.
Bah, c'est magnifique, alors. Encore une fois, comme toujours, tu me donnes envie d'essayer.
C'est 15 jours gratuit, vas-y, fonce.
Ouais, je vais me lancer dès ce soir.
Bon. Résultat, c'est encore un mois.
Quelques petits retours sur les projets qu'on avait évoqués au préalable, dans les épisodes précédents.
Petites choses, et il y a eu 2-3 news, donc on s'est dit qu'on allait vous faire un petit retour sur projet. Donc j'avais parlé dans l'épisode 7, celui du comeback de la malheureuse faillite de My Witty Game, qui était un créateur de jeux vidéo sur Internet. Et donc, j'ai reçu les 4 jeux commandés suite à l'offre justement qu'ils avaient faite suite à la faillite. Donc, voilà, c'était juste pour dire qu'effectivement, c'était bien reçu et que j'ai pas eu l'occasion de jouer à tous. Maintenant, j'ai trouver ce reçu un peu inégal. Celui, dans les 4 reçus, il y en a un qui avait été fait en partenariat avec Corben.info, qui lui est franchement sympa. On y a joué à plusieurs, on a passé un bon moment. Bon, il était un peu tard, donc on a eu un peu de mal au départ avec les règles qui sont pas des plus des plus simples, mais voilà, bien sympathique celui-là. On a par contre joué à un autre après, dont je me rappelle même plus le nom, avec des glaçons, qui était un peu moins top, quoi, on va dire. Voilà, on a senti que là, pour le coup, c'était un jeu fait pour essayer de créer un peu de fun et qui avait raté le coche. Donc voilà, c'était juste un petit retour rapide. J'ai pas spécialement pour envie de juger leur travail, que je connaissais au final très peu. Je les connais maintenant que de par ces quatre jeux-là. Malheureusement, je les connais trop tard. Mais si vous avez un jour l'occasion de tomber sur le jeu de société de... Ah, j'ai oublié le nom maintenant. Avec Corben. J'ai un trou sur le nom, sa mère, je l'avais noté. Je vais vous chercher ça, je reviens dans quelques instants. Non, plus sérieusement, si vous avez un jour l'occasion de tomber dessus, même que sais-je, en brocante ou en achetant d'occasion ou autre, allez-y, il est vraiment sympa. Ça vaut vraiment le coup pour les fans de jeux de société. Bon, je vais te laisser, pendant que je cherche le nom du jeu, la parole pour le suivant.
Je vais commencer le retour suivant et je te laisse chercher le nom. Donc juste un petit retour sur l'application, la plateforme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, IFTTT. En fait, il y a plusieurs petites infos dans l'info. La première, c'est que IFTTT s'appelle maintenant juste IF. Donc l'application a changé, toute la charte graphique a évolué, le logo n'est plus le même. Donc ça, c'est déjà une chose. Et en parallèle de ce changement de nom et d'identité, ils ont introduit trois nouveautés qui sont en fait des applications tierces, mais qui sont elles-mêmes interconnectées avec IF. C'est trois applications qui s'appellent Do Something, donc Do Button, Do Camera et Do Not. Et chacun, en fait, alors j'ai eu du mal à comprendre et je l'ai pas utilisé. Mais en fait, ça vous permet d'utiliser un bouton spécifique programmable pour lancer une action de IFTTT, enfin de IF, si j'ai bien compris. Ce bouton-là, vous pouvez le retrouver après dans votre menu, typiquement de
Ça
notification, par
permet
exemple.
de lancer un
Vous avez
receipt,
les.
ce qu'ils appellent les receipts, en fait, c'est ça.
Voilà. Et donc, c'est en quelque sorte un raccourci, un bouton d'action, raccourci vers une suite d'action, donc une recette de if. Et ça permet donc cet accès rapide. Après les nuances entre donc ça c'est pour la partie button et après c'est les deux autres où j'ai eu un peu plus de mal à comprendre vraiment l'intérêt de la chose. C'est do camera et do note qui là pour le coup m'ont paru un peu plus flou.
Moi, je te
Je
confirme.
sais pas si tu as
Je confirme. Oui, moi
tu
aussi.
confirmes. Bon. Très bien. Alors j'avais compris l'intérêt du bouton et je pense qu'en tout cas c'est ce qu'il faudra retenir de la news et aussi le changement de nom. Effectivement, IFTTT, c'était pas forcément ce qui allait être plus simple. Donc IFTTT est mort, vive IF.
Ouais, c'est ça. Mais donc, j'ai pas compris non plus vraiment l'intérêt. Maintenant, voilà, en soi, ça reste des boutons, d'où caméra et d'où note.
Oui, au même titre, mais ils ont l'air plus
Voilà,
spécifiques
c'est des
par contre.
boutons spécifiques à un système de prise de notes ou à un système caméra, mais après, je ne suis pas sûr de cerner totalement l'intérêt. Donc, si vous avez une idée, mettez-la nous en commentaire. Expliquez-nous, éclairez-nous. Pour le coup, on a dû louper le coche.
Non, mais parce qu'en fait, ce que je ne comprends pas juste, je veux pas prendre trop de temps, mais ce que je ne comprends pas, c'est que tout l'intérêt justement, en tout cas du bouton, c'est après d'avoir la possibilité d'enchaîner n'importe quel type d'action derrière ce bouton-là. S'il y a effectivement deux boutons qui sont spécifiques à l'action de prendre une photo et l'action de prendre une note, et après, en fait, le fait d'enchaîner un certain nombre de choses à la suite de ça, ça empiète déjà sur la recette en tant que telle. C'est-à-dire que pour moi, si je fais une prise de note, faire ça. Là, ce que j'ai pas compris, c'est que ça rajoute une étape avant, et après, ça lance la recette. Donc, bon, je sais pas si j'ai bien compris et si j'ai été clair, mais en tout cas, j'ai du mal à voir pourquoi ils ont rajouté une troisième étape dans leur processus.
Voilà,
C'est
exactement.
plus
Pareil,
ça.
j'ai pas compris une différence entre le do button et note et caméra. Mais bon, notre public va sûrement nous l'expliquer. Pour apporter l'information manquante, c'est Hacking Party, tout simplement, le nom du jeu de société. Voilà. Voilà. Dernier petit retour avant de passer aux mises en évidence, et ça, ce sera très rapide. Je vous parlais de Exploding Kittens, il y a une émission, c'était la dernière, hein, je pense, oui. Qui est, comme on le présageait, devenu un des plus gros financements de Kickstarter, puisqu'ils sont... Alors attention, parce qu'il y a People Time qui arrive, ils sont devenus le troisième plus gros projet financé. Ils vont passer maintenant quatrième, à mon avis, avec People. Ça, c'est... Donc le premier projet sur Kickstarter, et ça je l'ignorais, c'est Coolest Cooler, donc un système de refroidisseur, de fabrication de glaçons. Bon, ça je l'avais loupé celui-là. Le deuxième, c'est la People, la classique. Et maintenant le troisième, donc c'est Exploding Kitten. Et qui devient, pardon, excusez-moi, j'ai... qui devient également le premier, par contre, là, en nombre de soutiens. Et à mon avis, People Time va passer devant aussi. Ça, c'est une certitude. Puisqu'ils ont atteint 219 382 personnes, donc de donateurs. Voilà. On ne va pas trop traîner ici dessus, parce qu'on est déjà hors timing, n'est-ce pas? Et on va passer sur les mises en évidence. Je te laisse la parole.
Merci. Alors, je vais vous parler en fait d'un site qui existe déjà depuis un certain temps, mais qui a complètement changé sa façon de fonctionner assez récemment. Et c'est un site que j'utilisais avant et maintenant après. Je voulais en parler un peu plus dans les épisodes précédents, mais je ne l'avais pas suffisamment testé à mon goût. Et donc là, maintenant, je voulais vous faire un petit retour. Il s'avère que le site dont je vous parle s'appelle WeCook. WeCook.fr. C'est un site qui, à l'origine, propose, comme beaucoup de sites autour de la cuisine, propose un certain nombre de recettes. Après, tout l'intérêt en fait du site, c'est que vous n'allez pas arriver dessus en disant je veux cuisiner tel plat, donnez-moi la recette de manière classique, type marmiton 750 grammes. Enfin, il y en a qui le font bien mieux. Mais avec cette base de données de recettes, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est que vous allez vous connecter, créer un compte, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionnait avant, vous créez votre compte, vous identifiez vos besoins pour la semaine, c'est-à-dire je vais être amené à devoir me cuisiner en fait un repas le lundi soir, le mardi midi et soir, le mercredi juste le soir, etc., etc. Il connaît un certain nombre de vos habitudes et de vos envies et il va générer automatiquement l'ensemble de vos repas de la semaine avec un planning pour la semaine et chacun des repas. Vous pouvez évidemment, si vous n'aimez pas ce qui est proposé le mercredi midi, slider, enfin dire non, je ne veux pas, et il va rechercher un autre plat ou mettre un plat très spécifique que vous avez vu dans leur base de données. Et automatiquement, donc ça va générer votre plan pour la semaine avec, et ce qu'il y a de très intéressant, une liste de courses complète pour pouvoir préparer l'ensemble de ces plats-là. Il prend en compte en plus ce que vous aviez par le passé et donc ce que vous n'aurez pas à racheter. Il vous génère automatiquement un certain nombre de l'ensemble des recettes que vous allez pouvoir recevoir le bon jour quand vous allez devoir le préparer, un certain nombre de contraintes de temps, enfin voilà, c'est quand même très large le nombre de personnes qui vont être amenées à manger. Donc vous pouvez tout paramétrer et c'est quand même très bien. Ça vous prend peut-être, je sais pas, 15 minutes le dimanche soir pour paramétrer en gros votre semaine, et du coup ça va générer quelque chose de beaucoup plus varié si vous n'avez pas forcément les idées toujours pour cuisiner de manière variée. Donc ça, c'était comment le site fonctionnait jusque décembre 2014 et janvier 2015, donc un site que j'utilisais quasiment tous les jours. Janvier 2015, ils ont changé, alors pas tellement sur le fond, mais surtout sur la partie business model. Je me suis rendu compte en fait en fouillant un peu qu'ils avaient levé 400 000 euros en 2014, je crois, Et du coup, je pense que ça n'est que la conséquence en fait de cette levée de fonds. Ils ont complètement modifié leur business model autour en fait d'un certain nombre de programmes payants maintenant, qui vont encore plus loin dans la démarche. Alors vous avez encore une fois 14 jours d'essai gratuit, mais qui sont en fait, vous choisissez une typologie de menu qui vous ferait plaisir soit à vous, soit à votre famille, et chaque semaine, les compositions de plats seront réalisées et de planning pour la semaine. Encore une fois, vous pourrez évoluer, mais à la différence près que maintenant, il y a un diététicien, enfin, un nutritionniste, qui vous accompagne. Alors je suppose que c'est la même personne pour un certain nombre d'utilisateurs, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même un contact en plus humain et un regard sur votre régime alimentaire. Vous pouvez donc spécifier si vous voulez manger plutôt équilibré, plutôt semi-végétarien, sans gluten, si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez cuisiner en moins de 25 minutes systématiquement. Donc voilà, et ça va prendre en compte tout ça, et en plus de ça, maintenant, votre nutritionniste va avoir un droit de regard là-dessus. Chaque plat sera plutôt équilibré, en tout cas sur la semaine, ça vous permettra d'avoir un équilibre entre les produits. Et globalement, ce que le service vous assure, c'est que vous allez être amené à réaliser un certain nombre d'économies, et eux mettent en avant le chiffre de 1000 euros en moyenne par an pour une famille de 4 personnes, parce qu'effectivement, comme ça génère automatiquement la liste des courses, pas de gâchis, tout est prévu en fait à l'avance sur la base des recettes, et c'est beaucoup plus pratique déjà pour les courses. Ça vous optimise, ça rend un peu plus tranquille, ils prennent en compte la saisonnalité des produits, enfin ça va très très loin dans la démarche. Donc maintenant ils ont encore poussé jusqu'au bout. L'application est très bien faite, le site est plutôt beau. Moi, j'aime bien le style. Et donc, je vous conseille d'essayer si vous pouvez vous lancer pour les 14 jours d'essai gratuit. Et ça va tellement loin, ça, c'est aussi une fonctionnalité qu'ils ont intégrée, que vous pouvez maintenant... Alors, c'est là, pour le coup, par contre, vrai en France. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai en dehors de la France. Mais une fois que vous êtes allé à l'étape de générer votre liste de courses, vous pouvez même automatiquement vous faire livrer à domicile par un certain nombre de sites qu'on connaît, soit de drive, donc vous pouvez aller le récupérer, soit vous le faire livrer à domicile par les grandes surfaces françaises, automatiquement, juste en cliquant, et donc ça a fait la sélection des produits, ça vous affiche le prix que vous allez être amené à payer, enfin voilà, c'est magnifique. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je pense avoir fait le tour. Est-ce que déjà tu es cuisinier?
Oui, c'est moi qui cuisine.
Est-ce que tu es... Bon, c'est toi qui cuisine. Est-ce que tu serais utilisateur de ça, ou de toute manière, pour toi, c'est pas une source de stress particulière, ou c'est même plutôt une envie de gérer tout ça?
Alors, oui et non. Il y a du pour et du contre. J'aime bien cuisiner, en effet. J'aime bien faire des choses originales. Et c'est moi qui gère généralement, donc oui, clairement, je serai utilisateur de ce type de système. Je vais d'ailleurs, suite à ta présentation, m'empresser d'aller essayer. Maintenant, j'aime bien aussi, ça dépend toujours des périodes et du temps disponible, mais de m'improviser, on va dire, chef cuisinier, de me faire des petites choses originales, des petits défis variés, et pas nécessairement des trucs qu'on me suggère. Parce que j'ai déjà un carnet sur Marmiton, comme beaucoup de monde, hein. Où j'enregistre beaucoup de recettes, où je fais des menus au hasard. Donc voilà, on va essayer, on va voir ce que WeCook peut m'apporter en plus.
Ouais, effectivement, peut-être le problème, enfin, je sais pas si c'est un problème, mais pour les personnes qui n'aiment pas être trop dirigées, ça ne sera pas forcément l'outil idéal. C'est vraiment justement, et je pense que par contre, ça peut, pour plein de personnes qui sont un peu effrayées par la démarche de se mettre derrière les fourneaux, je pense que c'est un très bel outil qui permet justement la transition. Et typiquement, une fois qu'on l'a utilisé peut-être 4 mois, 5 mois, et qu'on est un peu, on commence à avoir pas mal d'idées sur quel produit il faut utiliser, dans quel contexte, et même quand on commence à voir qu'en fonction des saisons, il ne faut pas forcément acheter les mêmes produits, qu'il ne faut pas les cuisiner de la même manière, etc. Ça donne des idées. Une fois qu'on l'a suffisamment utilisé, qu'on a ces idées-là, on peut peut-être s'en détacher pour être un peu plus à l'aise. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est une bonne amorce. Typiquement, alors c'est peut-être un peu cher, mais je pense que pour un public assez jeune, type étudiant ou jeune célibataire actif, ça peut être pas mal. En famille, je suis pas sûr que ça puisse complètement adhérer. C'est peut-être déjà un peu trop tard. Je pense que les habitudes sont prises, en fait. On peut difficilement planifier autant en famille. Je sais pas, c'est sous ton contrôle.
Non, oui, il faut le temps. De toute façon, j'ai mis du temps à arriver à ça. Donc, pour se lancer, c'est bien, je pense, comme tu dis, pour découvrir un petit peu. Et après, quand tu as, comme moi, fait la cuisine pendant plusieurs mois, années peut-être, pour la famille, ben, oui, années, maintenant ma fille a 3 ans, donc oui, années, ben, tu commences à savoir un peu quoi faire, avoir tes recettes fétiches, savoir où aller explorer, comment. Donc, c'est peut-être moins effectivement public cible, en effet.
Voilà, bah, bon, en tout cas, essayez, vous avez quelques jours d'essai gratuits, et puis c'est plutôt pas mal. Voilà, je te laisse enchaîner avec ta mise en évidence.
Voilà, donc je vais terminer cette émission sans voix, avec le néant total au niveau de la voix. J'avais vraiment excuse par avance. En vous parlant de... alors, pour la prononciation, j'ai un gros doute. Je dirais Cridle. .io, sans certitude.
Je dirais la même chose, si ça peut te rassurer. On aura peut-être tous les deux tort.
Voilà. Donc, le principe, pour ceux peut-être qui connaissent déjà, je ne sais pas si ça parle, SlideShare, qui est un système lancé par LinkedIn il y a quelques temps d'ici, je crois en fin 2014 ou quelque chose comme ça, qui permet en fait d'aller pêcher tes données sur LinkedIn, pour en faire une sorte de petit CV interactif que tu peux après diffuser sur le web. D'ailleurs, je recommande pour ceux qui sont à la recherche d'une expérience un peu originale, faites un tour sur SlideShare. Ça marche pas mal et ça permet de créer une page web, j'y arriverai, qui met en évidence vos connaissances, votre expérience, etc. C'est assez bien fait. Mais là où SlideShare a une limite, c'est que ça n'en fait pas un CV au sens traditionnel du terme. Ça reste du domaine du web, quelque chose d'assez original, et ça ne convient pas nécessairement à tous les types de sociétés, tous les types d'entretiens, tous les... Donc, si comme moi, vous êtes dans une boîte depuis un certain temps, et que donc vous ne maintenez pas votre CV à jour, parce que vous ne vous voyez pas sortir de là tout de suite... Cet outil, à mon avis, est fait pour vous, puisque votre profil LinkedIn, par contre, généralement, l'est un peu plus. Enfin, moi, en tout cas, j'essaie de le maintenir à jour, et il est plus facile de le maintenir à jour qu'un vieux document Word tout pourri. Et donc, ce Cridle.io, ben, ça vous permet quoi? Ça vous permet très simplement, à partir du compte LinkedIn, de générer une première étape d'un CV, qui va aller piocher tout ce que vous avez renseigné, toutes les dates, toutes les expériences, toutes les études, tout ce que vous voulez. De sélectionner dedans très simplement les données que vous souhaitez voir affichées, celles que vous ne souhaitez pas, celles qu'éventuellement vous souhaitez éditer. Ça se fait très rapidement en quelques clics. On voit tout dérouler, même ce qu'on aurait pu oublier, et on peut très facilement modifier, éditer comme on le souhaite. Ensuite, vous avez le choix d'une multitude de thèmes. Pour le moment, je ne les ai pas encore trouvés hyper originaux. Apparemment, ça viendra, ils vont en ajouter. On reste dans du format CV assez standard, sérieux, on va dire. Et puis, une fois que vous avez sélectionné votre type de CV, que vous l'avez nommé, vous pouvez choisir soit de le mettre en ligne, de le référencer ou pas, de le rendre visible à certaines personnes ou pas, de le partager sur les réseaux sociaux ou pas à nouveau. Et enfin, vous pouvez exporter au final le résultat dans un PDF ou un doc, ou même l'afficher sur votre site internet via un petit lien embed qui vous permet de le mettre en ligne directement sur le site. Donc ça permet très facilement à des gens qui parfois ont eu peut-être une carrière, on va dire, ou qui ont vécu certaines choses, qu'ils ont mis à jour petit à petit leur profil LinkedIn, mais qui n'ont jamais repensé à faire un CV en bonne et due forme, mais au moment où la nécessité se présente, voilà, je vous conseille l'outil, il est vraiment très pratique, c'est gratuit, c'est simple, c'est assez bien fait, et ça vous sort en deux temps, trois mouvements, deux coups de cuillère à peau, pour utiliser une expression, une vieille expression, un CV bien ficelé. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que j'ai pas énormément non plus de choses à dire autour de ça, mais c'est vraiment, du test que j'en ai fait, en tout cas, je l'ai trouvé très pratique. Le résultat est assez concluant. Il y a un petit peu de travail d'édition, évidemment, parce que bon, ce qui est sur LinkedIn n'est pas toujours ou complètement bien renseigné, ou il va piocher certaines choses qui mettent des endroits que vous n'auriez peut-être pas voulu mettre en évidence comparé à d'autres. Donc de toute façon, voilà, il faut le personnaliser. Mais leur outil web de personnalisation est assez bien fait pour vous permettre de faire ça. Je ne sais pas si toi, je pense pas maintenant que tu as un travail, le CV.
Oui, non, mais c'est un peu pareil que toi. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, c'est pas quelque chose. Ça fait plusieurs années où j'ai pas été amené à le retravailler. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est que. Il y a par définition une redondance du contenu. La seule chose qu'on est amené à maintenir quasi continuellement, ça sera son compte LinkedIn. Donc ça me paraît intelligent que le point en fait central de collecte d'informations, ce soit ce compte LinkedIn, et qu'après de là découle un certain nombre de choses. Moi, je l'ai à nouveau retesté. Je l'avais déjà fait quand tu l'avais publié, mais je viens de le retester. Le temps que tu parlais, ça m'a généré un certain nombre de CV où j'ai pu modifier des thèmes. Globalement, je suis vraiment, vraiment agréablement surpris de la qualité de ce que ça génère. Ça force systématiquement, même là, j'ai mis la quasi-totalité du contenu de mon LinkedIn et il y a quand même pas mal de textes. Ça le fait rentrer dans une page systématiquement et ça n'a pas l'impression d'avoir un truc complètement écrabouillé. C'est des structures, alors bon, assez classiques, hein, mais c'est pas mal. Et on peut générer les thèmes, les enregistrer, faire tout plein de choses. Donc on peut, à mon avis, aller relativement loin. Je suis pas allé dans le détail, mais dans la customisation. Une fois qu'on a créé son thème, qu'on est bien, bien original et qu'on est le seul à l'avoir, et qu'on sait que si je mets à jour mon compte LinkedIn, ça mettra automatiquement à jour mon CV, c'est top. Il n'y a rien à dire de plus, c'est vraiment un outil pratique.
Je conseille les deux en complément, en fait, d'avoir d'un côté, si on doit générer un CV comme ça, SlideShare pour ceux qui cherchent quelque chose de vraiment original. Parce que oui, effectivement, il y a, comme je l'ai dit, beaucoup d'éditions possibles sur celui-là, mais on reste dans des carcans de CV traditionnels, quoi, du traditionnel document d'une page bien présentée qui montre ce qu'on sait faire. Tu sais choisir d'aligner telle case à droite plutôt qu'à gauche, de mettre telle couleur plutôt que telle autre. Ça oui, mais tu restes, ça reste fort immobile. Donc SlideShare.
Mais tu en auras besoin aussi. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes.
Mais c'est ça, c'est complémentaire. Donc SlideShare d'un côté pour le côté plus créatif, pour montrer quelque chose d'original qui sort un peu du lot, qui va peut-être attirer plus l'œil. Et. Cradle, prononciation décidément, pour le côté un peu plus sérieux, le côté lettre de motivation et CV en bonne et due forme, quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà, à tester, je vous invite, même si vous ne devez pas créer de CV, à la limite, essayez-le, juste pour voir ce que ça donne. Vous pourriez même être surpris, moi, en le faisant, j'ai revu un peu mon expérience, on va dire, et voilà, je me suis dit, oh, tiens, c'est pas mal, j'ai fait ça. Donc voilà, un outil bien, bien pratique. Mais je vais, si tu me permets, ici te laisser tout doucement conclure. Je ne vais plus arriver à parler très longtemps.
Pas de problème. Pas de problème. Du coup, petit retour que je vais réitérer par rapport à. Je l'avais évoqué en fait la dernière fois dans l'épisode précédent et j'insiste à nouveau. Si vous avez la possibilité de nous faire des retours sur le nouvel habillage musical, je vais l'appeler comme ça, du podcast, ça me ferait plaisir parce qu'on travaille pour le faire évoluer et on voudrait savoir si ça vous convient. Donc n'hésitez pas, encore une fois, les commentaires sur le site, sur iTunes, sur Facebook, sur Twitter, partout. D'ailleurs, on va donner les différents liens. Mais globalement, faites-nous vos retours, ça nous aide à améliorer, et même surtout, pas uniquement sur cet aspect-là. L'interaction, elle est souhaitée et on serait ravis d'avoir encore plus d'interactions qu'on a déjà. Merci d'ailleurs à ceux qui avaient un peu communiqué à la suite du dernier épisode. On a eu pas mal de retours des différentes personnes qui géraient la plupart des projets dont on avait parlé, donc c'était assez sympa. Donc continuez à nous faire vos retours. Donc où nous retrouver? On va commencer avec le point, l'élément central, lesprojetsduweb.net, notre podcast, notre site. Vous pouvez retrouver après les projets du web sur iTunes directement ou sur donc PodCloud qui héberge gentiment notre mini-site, notre podcast, enfin qui héberge absolument tout et c'est un super service. On ne cessera de vous le répéter. Ensuite, les projets du web sur Twitter. Et puis après, alors il y a aussi la communauté Facebook et Google+, peu active, mais on garde bon espoir. si peut-être qu'il y a des personnes qui sont motivées pour relancer la communauté Google+, vous pouvez nous aider à le faire. On sera ravis. Et enfin, bah, je vais te laisser la parole pour ton compte Twitter. Moi, le mien, c'est Mathieu TNSC, @MathieuTNSC. Et donc, je te laisse, si tu as encore un petit peu de voix.
Je finis l'émission. Est-ce que tu vas y arriver? Je finis l'émission à la limite de l'agonie. Voilà, je vous aime public. Non, c'est NotKirby sur Twitter, tout simplement.
Voilà. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à nous faire vos retours, je vais y arriver. Et puis, du coup, on se retrouve normalement, comme toujours, dans 2 semaines pour l'épisode 10 déjà. Et donc, à dans 2 semaines.
Merci à tous.
Et puis, bon rétablissement.
J'espère revenir avec un peu plus de voix. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt.
Allez.
Ciao.
À bientôt.
Les projets du web.